de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins. Comme chaque vendredi, nous parlons d'éducation. Aujourd'hui, School Business ou comment l'argent dynamite le système éducatif. C'est le titre de votre enquête. Bonjour Arnaud Parianti.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences économiques et vous avez décortiqué ce que toutes les familles aisées, mais aussi de la classe moyenne, savent déjà. Pour élever des enfants, il faut désormais banquer et parfois beaucoup. Alors, il y a les cours privés, les stages intensifs pendant les vacances, les séjours linguistiques, les écoles et universités privées dont les prix ont explosé ces dernières années. La nouveauté, dites-vous, c'est l'ampleur du phénomène qui touche maintenant aussi de très nombreux pays dans le monde. On vient de me parler d'ailleurs tout récemment d'une école anglophone à Lomé, au Togo, qui facture 10 000 euros l'année pour un élève en classe de maternelle. Alors peut-on encore réussir sans argent? C'est la question que nous allons vous poser. Les familles font-elles les bons choix? Sont-elles bien informées? Également dans le studio, Emmanuel Davidenkoff, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de la rédaction à l'Étudiant, un magazine, des sites internet. Votre groupe est clairement leader sur le marché de l'information aux études, grâce ou à cause de l'inquiétude scolaire?
Grâce au fait que nous proposons des solutions, c'est-à-dire que les gens sont déjà naturellement suffisamment angoissés, donc on évite d'en rajouter généralement, on leur dit plutôt on va vous aider.
En tout cas, vous avez publié de nombreux ouvrages sur l'éducation, le plus récent, le tsunami numérique. Et puis nous serons en ligne avec notre correspondant en Corée du Sud, Frédéric Ojardias, où les prix ont explosé, les prix des cours privés, et ils ont même une incidence non seulement sur le budget des familles, mais aussi maintenant sur la natalité de tout un pays. Et quant à vous, les voisins, appelez-nous pour nous parler de vos dépenses en éducation dans votre pays. 33 1 84 22 71 71. Peut-on réussir sans argent? Vos messages également Facebook, Twitter, hashtag 7 milliards. Je vous lis quelques messages. Samban à Lomé nous dit: la réussite scolaire dépend du budget familial, parce que si vous avez les moyens d'envoyer votre enfant dans une école privée, sa réussite est assurée. Alors ça, ce message-là, on l'a absolument partout sur le continent africain. Léopold à Conakry en Guinée, 25 ans, nous dit: la réussite dépend de l'argent, surtout maintenant que les diplômes s'achètent. Allusion à la corruption, et évidemment la Guinée n'est pas un cas isolé. Oumar à Dakar nous dit: ça dépend surtout de la détermination et du choix des filières de l'étudiant, et pas seulement de l'argent. Annabelle nous raconte son histoire. L'école primaire au Cameroun, nous dit-elle, est pour tout le monde, mais le secondaire c'est seulement pour la classe moyenne. Moi j'étudiais avec des bougies et je m'en sortais, mais je savais qu'un jour je devrais arrêter mes études faute de moyens pour libérer mes parents de ce fardeau, et puis pour m'occuper de mes frères et sœurs. Je continuerai peut-être plus tard à mes frais ou grâce à des bourses en Occident. Doris est à Goma, en République démocratique du Congo, à l'est du pays. J'ai toujours travaillé dur à l'école pour obtenir la meilleure note. Le fait que je vienne d'une famille pauvre n'a pas influencé mon niveau scolaire ni ma réussite, mais mon parcours a été bien plus difficile. Je dois recevoir un prix prochainement pour ma réussite scolaire en licence d'humanité, mais certaines personnes me disent que je ne l'aurai pas car je suis un mauvais payeur. Allez, appelez-nous maintenant, on a envie de vous entendre de vive voix. 33 1 84 22 71 71. Combien dépensez-vous pour l'éducation de vos enfants? C'est la question que Yael Khan a posée à des parents à Paris.
300, 3000. Je vais te calculer en même temps. C'est une bonne question, hein, c'est une très bonne question. Pour les deux enfants, par exemple, c'est quand même des budgets annuels, sachant que bon, on a un profil mi-public, mi-privé. Ça va nous faire dans les peut-être 5000 euros, peut-être plus.
Non, je n'ai pas calculé un budget pour les études. Je sais qu'on a des dépenses à la rentrée.
100 euros de fourniture scolaire à peu près pour l'année, plus rajouter des petits trucs, j'en sais rien, j'irais 200, 300 euros pour les études pour l'année. Ouais.
Vous n'avez jamais fait le calcul?
Non, non, je n'ai jamais fait le calcul. Non, non, je donne ce qu'il faut par coup, mais bon, si je n'ai pas fait le calcul, c'est que ça ne me paraît pas non plus énorme ici, mais que ça me paraît faisable, quoi. Sinon je me mettrais à calculer.
500 euros de conservatoire, une activité, plus 200.
Après, elle fait une autre activité en italien qui doit faire au moins 400 euros. Donc, on est au moins, il y en a une, elle est au moins à 1100 euros. Et si je rajoute, oui, des fournitures autour, on arrive à 1200. Et il y en a une autre qui est peut-être un peu moins chère. Elle me coûte moins cher, mais elle doit être à 900 euros.
Pour ma fille aînée qui a 17 ans, qui est en école privée, ça nous revient à 1500 euros l'année. C'est une école qui est agréée par l'État, donc ça va encore, on s'en sort bien. En plus, il y a une cafétéria. La cafétéria coûte cher. Et elle veut bien manger, il faut au moins 7 euros minimum. Heureusement que c'est pas une grande gourmande. Sinon, je peux pas vous dire, les fournitures, c'est 150 euros pour mon fils qui est au collège, qui est en 3e. Puis on nous demande toujours de faire des chèques. Il y a des sorties, il faut acheter tel livre, il faut acheter... Donc c'est vrai que c'est un gros budget. Hein. En fait, on calcule pas, mais on serait étonné, je pense, du montant total.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Arnaud Parianti, les dépenses des familles pour l'éducation, c'est un sujet qui est omniprésent dans les discussions entre les adultes, mais en même temps, on a l'impression que c'est un peu tabou, non ?
Ah oui, vraiment. Et entre les adultes, les parents, y a encore cette idée que finalement, l'idéal, ça serait de passer par les filières d'excellence républicaine et que le privé, c'est une espèce de béquille. Mmh. Et donc, on n'avoue pas forcément très facilement que parce qu'on avait un enfant qui réussissait moyennement bien, eh bien, on a pris une filière parallèle, mais que ça coûte 5 ou 10 000 euros par an.
Mais alors, justement, vous êtes professeur d'économie dans un lycée parisien. Pourquoi vous avez décidé d'enquêter sur ce sujet ?
Et quand je suis arrivé dans ce lycée, j'ai découvert l'omniprésence de l'argent. C'est-à-dire que l'argent va veiller à tout. À chaque fois qu'un professeur semble défaillant ou que l'élève a des difficultés, la moindre mauvaise note, immédiatement recours au cours privé. Les problèmes d'orientation, coaching. L'amélioration en langue, séjour linguistique, voire année de césure complète à l'étranger. L'argent permet d'acheter des solutions à tous les problèmes. Et en particulier à un problème qui est assez important dans ce milieu, c'est le fait que les parents n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants.
Alors vous démontrez finalement assez bien que des élèves de niveau très moyen peuvent très bien réussir, parce que c'est l'argent qui compense.
Oui, alors ça c'est effectivement, les professeurs de mon établissement sont souvent agacés, voire éventuellement choqués par ça. C'est-à-dire que on est quand même élevé dans l'idée de la méritocratie, que ceux qui s'investissent le plus, font le plus d'efforts, etc., en seront récompensés en termes de réussite scolaire et de diplôme. Et puis on s'aperçoit que beaucoup d'élèves qui ont une implication très superficielle dans leur scolarité, qui font pas grand-chose, qui sont pas très cultivés, qui sont pas soufflants du tout, néanmoins vont passer des concours vers des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, des écoles de web designer, de tout ce qu'on voudra, qui vont leur donner une formation qui, sur le plan académique, n'est pas excellente, mais avec un excellent réseau relationnel, avec un réseau d'anciens qui va aider à l'insertion dans le monde de l'entreprise, avec des cours qui vont permettre de se vendre. C'est une mère d'élève qui m'a donné une fois cette expression, qui m'a dit « oui, dans ce genre d'école, on apprend d'abord à se vendre ». Et ceci va permettre une très bonne insertion professionnelle, malgré effectivement un très faible investissement scolaire et des résultats très, 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 très moyens. Oui. Et évidemment, ceci serait impossible si les parents n'avaient pas les moyens d'aligner au total sur 5 ans entre 40 et 50 000 euros.
Emmanuel Davidenkov, vous confirmez cela, qu'aujourd'hui, l'élargissement finalement du choix scolaire, de la consommation scolaire, notamment pour les études supérieures, a permis de compenser par l'argent des réussites scolaires très, très médiocres.
En France, le système éducatif, il fonctionne comme le jeu de tarot, le jeu de cartes. Plus vous avez d'atouts dans votre jeu au début, moins vous devez faire de points. C'est quand même assez aberrant, c'est pas du tout méritocratique. Le système éducatif, il est comme ça. Si vous naissez dans une famille où il y a un bon accès à la culture, si vous naissez dans une famille qui a les moyens de s'offrir un logement dans un quartier desservant de bons collèges et de bons lycées, si effectivement vous êtes dans une famille qui ne regardera pas à la dépense pour éventuellement vous permettre de faire un séjour linguistique, ou si vous commencez à trébucher pour vous offrir une béquille à ce moment-là, vous n'aurez pas besoin de payer parce que vous irez dans le service public qui est redoutable. Alors, sauf pour des choix parfois de tradition, toute la famille est allée dans telle école privée ou parfois encore quelques choix liés aux préférences confessionnelles, mais c'est extrêmement rare. Vous n'avez pas besoin de faire ça, le service public s'occupe de tout. Vous irez dans un très bon lycée public.
Il y a quand même l'industrie des cours privés parallèles. Vous allez dans les grands lycées parisiens publics où les élèves réussissent très
bien. C'est ce que je vous dis.
Ils sont bons élèves, mais parallèlement, il y a l'armada des petits cours privés.
Alors, ouais, mais c'est encore autre chose. C'est-à-dire que les gens ne vont pas... Je termine juste mon parcours, mais je vous réponds à ça. Vous irez dans une classe prépa publique, elles ont des résultats absolument excellents, et quand vous ferez une école, par exemple, d'ingénieurs, ce sont des écoles publiques. Parfois même, on va vous rémunérer si vous faites polytechnique. C'est quand même extraordinaire. Donc, la méritocratie est extrêmement sympathique. Vous avez raison, on ne va pas chercher la même chose auprès des cours privés. Vous avez des élèves, aujourd'hui, c'est un marché considérable en France, mais vous avez des élèves qui vont... En fait, on va chercher deux points. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de miracle. Un prof particulier ne fait pas mieux qu'un prof dans sa salle de classe. Il faut arrêter ça. En revanche, vous allez chercher deux points. Donc effectivement, si vous êtes, à 17 sur 20 et que vous avez besoin du 19 pour rentrer dans telle école encore plus cotée, vous allez aller le chercher si vous en avez la ressource. Parfois, on va aussi le chercher parce qu'on est à 8 et qu'on a besoin d'avoir 10 pour accrocher un baccalauréat qui permettra d'accéder. Mais voilà, l'argent est omniprésent et si vous voulez, doublement. C'est-à-dire qu'il y a un redoublement par l'effet du marché, du fonctionnement naturel du système en France, qui de toute façon favorise déjà les personnes qui ont du capital culturel et du capital économique.
Arnaud Parianti.
Il y a quand même un peu une exception française. On est le premier marché du soutien scolaire en Europe, entre 1,5 milliard et 2 milliards, selon les études de Xerfi notamment. Et ça fait déjà pas mal d'argent. Mais par ailleurs, ce qui se développe de manière souterraine, subreptice, mais absolument remarquable, c'est des écoles qui vont répondre à deux types de préoccupations. Première préoccupation, ce que les jeunes adorent. Donc, vous voulez devenir vétérinaire, vous voulez devenir médecin, vous voulez devenir journaliste, vous voulez devenir agent de sportif professionnel, etc. Web designer, ça va être des formations privées qui sont taillés sur mesure, qui vont aussi vous vendre du rêve, c'est incontestable. Et là, c'est clair qu'il y a une disposition des parents à payer qui est importante parce que c'est le rêve de l'enfant.
Parfois, ils n'ont pas le choix, si je puis me permettre, parce que formation publique, typiquement en journalisme, en web design, etc., il n'y en a pas. Donc,
en journalisme, il n'y a pas de formation
publique.
Un petit
peu, publique. Mais pas beaucoup. Si, si,
très peu.
Peu
à l'université. Beaucoup
moins. Oui, enfin, et public, avec des prix dérégulés.
Sur les 15 écoles reconnues par la profession, la majorité est privée.
Po,
alors, vous parliez des études de médecine, vous parliez de médecin, justement. Vous disiez.
CFJ, IPJ, ESJ.
Arnaud Parianti, vous parlez de médecine. Peut-on aujourd'hui en France devenir médecin en étant désargenté? Les frais d'inscription à la fac de médecine coûtent moins cher qu'un smartphone, il faut le rappeler. Mais effectivement, la réalité est bien différente. Je vous propose d'écouter le témoignage de Pierre et d'Antoine, jeunes bacheliers parisiens qui viennent d'entrer à l'Université Paris-Descartes en première année, qui préparent le concours ultra-sélectif de médecine. Alice Milot les a rencontrés à la sortie des cours.
Alors là, on est dans le centre des Saints-Pères de l'Université Descartes. On vient d'avoir cours d'histologie. Donc on est des étudiants en première année de médecine. Alors le principe déjà, c'est que c'est un concours qui est ultra-sélectif. Alors le nombre de prix et de participants varie selon les facs, mais à Paris-Descartes, en gros, il y a 2700 participants, 350 qui sont pris en médecine, 12% qui vont avoir le concours de médecine.
À la fin de l'année.
C'est ça, ouais. Ça fait 4 ans que je pense qu'à ça, en fait. Le bac, ça ne me faisait pas stresser, le concours de médecine, ça n'a rien à voir, parce que ça va un peu déterminer ce que je vais faire pour le reste de ma vie. Donc oui, voilà, c'est un tout petit peu stressant.
Concrètement, tous les deux, comment vous allez vous y prendre pour réussir cette première année? Quelles sont vos stratégies?
Notre stratégie, déjà, c'est qu'on s'est inscrits tous les deux dans une prépa. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait des exercices type concours et on les corrige. Et on fait le maximum d'exercices type concours. Comme ça, bah voilà, c'est le plus important aussi en médecine, quand on fait des exercices, c'est d'avoir la correction. Et on a une correction de qualité avec la prépa.
La prépa vous permet de vous entraîner, de faire un maximum d'examens blancs, en fait.
Ouais, c'est exactement ça. Ça me donne un avantage énorme.
Les chiffres montrent clairement que les primants qui passent ont généralement une prépa, et les doublants qui passent, donc du deuxième coup, avaient une prépa leur première année.
Pour toi, c'était impensable de faire médecine sans t'inscrire dans une prépa?
Oui, clairement. Tout le monde fait une prépa, donc c'est difficile de savoir si c'est possible ou pas. C'est possible de réussir sans, mais il y a trop de gens qui en font et qui passent pour qu'on sache vraiment. Je pense pas que moi, par exemple, sans prépa, je pourrais y arriver. Ça, je peux le dire, par contre. Parce que je perdrais beaucoup de temps à essayer de comprendre des polycopiés beaucoup trop longs. Je me sentirais submergé. Je travaillerais, mais je perdrais énormément de temps. C'est ça, le problème.
Combien ça coûte une prépa?
À l'année, je crois que moi, je paye entre 4 000 et 5 000 euros. Et le stage de pré-entrée de 3 semaines que j'ai fait, c'est 1 000 euros. Bah, moi, en fait, c'est mes parents qui payent, quoi.
Ils peuvent payer?
Ouais, il n'y a pas de problème. Ma mère, elle est professeure de radiologie. Et mon père, il est banquier. Si mes parents n'étaient pas là pour payer, je serais allé à tous les cours qu'organise le CDP1. J'aurais fait la pré-entrée du CDP1.
Le CDP1, c'est l'association.
Le CDP1, c'est l'association d'étudiants en médecine, ouais.
C'est ça. Ça, c'est gratuit.
C'est 10 euros l'inscription, donc c'est presque gratuit, ouais.
Mais est-ce que ça aurait été suffisant?
Il y a des gens brillants qui arrivent. C'est des personnes très synthétiques, très carrées, très matinales.
Il y a toujours un avantage avec la prépa, mais il y a ces associations qui permettent d'équilibrer un peu, en fait, nos chances. Même si, vraiment, il y a un avantage avec la prépa, ça c'est clair. Clairement, je trouve que c'est complètement injuste.
C'est horrible, mais c'est un concours.
7 milliards de voisins, c'est sur RFI.
Arnaud Parianti, vous donnez un chiffre dans votre livre. Seuls 10% des candidats réussissent le concours de médecine sans l'aide d'une prépa privée. C'est vrai pour Paris, c'est vrai pour Marseille, c'est vrai pour Montpellier. Si on passe par une prépa privée, on peut arriver à 50% de chances de réussir le concours. On nage en pleine hypocrisie dans une université où on paye moins de 200 euros de frais d'inscription.
À partir du moment où il y a une très très forte sélectivité en première année, cette première année en plus est très courte. L'enseignement en plus est dispensé dans des conditions matérielles qui sont exécrables. Tout est réuni pour que effectivement les étudiants aient cherché un complément ailleurs.
Ouais. Emmanuel Davidenkopf, les prépas privés, ceci dit, pour médecine, ça existe depuis plus de 30 ans. Alors finalement, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ces phénomènes-là ?
Bah, il y a quand même une montée de la compétition scolaire et notamment de l'angoisse des familles face à la situation économique et face au chômage. Si vous avez une montée de la compétition, et là on parle quand même de concours, donc un concours, le problème n'est pas d'avoir une bonne note, le problème c'est d'avoir une meilleure note que le voisin. Donc c'est ça qu'on va chercher à travers ces prépas. À partir du moment où une partie suffisante des candidats va dans une prépa privée, c'est exactement le raisonnement qu'on entend dans le reportage. Au fond, je ne sais pas si c'est indispensable, mais comme les autres le font, je le fais. Je suis bien, entre guillemets, obligé de le faire.
Il y a deux choses qui ont changé quand même. La première chose, c'est la disposition des familles à payer. Payer, c'était considéré comme un peu étonnant, un peu anormal. Aujourd'hui, payer pour la réussite scolaire de ses enfants, ça, c'est en train d'entrer dans les mœurs en France.
Vous racontez un de vos rendez-vous assez incroyable avec vos élèves, puisque en tant que professeur d'économie, en terminale ES, vous êtes censé assister les élèves dans leurs décisions d'orientation. Vous racontez un rendez-vous avec les parents, l'élève. Et vous posez très vite la question de l'argent. Oui, tu veux faire cette école de commerce, là, en prépa intégrée, ça va te demander beaucoup moins de travail. Mais est-ce que tu sais combien ça coûte ? Alors, l'élève, c'est pas du tout renseigné, évidemment. Et les parents disent, merci d'aborder la question. Ça semble incroyable, non ?
Oui, mais parce que c'est difficile pour les parents. C'est presque aussi fort que pour la santé. C'est-à-dire que c'est difficile de refuser à son enfant une école en disant c'est trop cher. C'est très, très difficile. Alors qu'on a passé toutes les années qui précédaient à dire il faut absolument que tu réussisses. Et à ce moment-là, l'enfant dit pour réussir, il faut que je passe par là. Et on lui dirait non parce qu'on n'a pas les moyens financiers. De ce fait, la pression est énorme. Et c'est vrai que du coup, les parents souvent n'osent pas poser la question de l'argent. Quant aux enfants, ils l'ignorent.
Il y a eu
énormément.
Aussi un marketing de la culpabilité aussi de la part de ces groupes privés qui se sont montés, qui ont joué là-dessus pour communiquer avec les familles, Emmanuel Davidenkopf.
Le soutien scolaire, oui, ce que dit Arnaud Parianti.
Vous ne pouvez pas refuser ça à vos enfants ?
Oui, moi je ne pense pas que ça fonctionne là-dessus. D'abord, le privé dans l'enseignement supérieur en France, il reste relativement modeste par rapport à ce qu'on observe dans d'autres pays. Il est certes en pleine croissance, notamment depuis une dizaine d'années. Enfin, on est encore en dessous de 20% du nombre d'élèves. Donc 80%, plus de 80% de l'enseignement supérieur reste public. Ça ne veut pas dire, on l'a vu avec l'exemple de médecine, qu'il n'y a pas un marché gris privé autour qui vient se greffer. Mais en tout cas, pour le moment, on est encore dans une situation où le service public domine assez largement. Non, moi je crois que ça ne fonctionne pas là-dessus. Il y a un certain nombre de secteurs dans les années 70-80 desquels l'État était quasiment absent dans l'enseignement supérieur. Alors on peut faire le décompte des formations en journalisme. Je suis d'accord qu'il y en a plus des privés qu'avant, qu'avant. Mais si vous prenez beaucoup d'autres exemples.
Des formations très métiers, on va dire.
Des formations très métiers, et aussi tout le secteur du paramédical. Et aujourd'hui, c'est le web design, les ingénieurs informatiques. Pourquoi une des écoles, ou certaines des écoles les plus reconnues en France en matière d'informatique, sont des écoles privées ? Parce que l'État est très en retard là-dessus. Donc le privé s'est développé là-dessus. Et Deuxio, il se développe énormément sur la capacité, la promesse de on va s'occuper de vos enfants. Et je pense que ça interroge aussi le rapport
tout
des parents aux enfants aujourd'hui.
Vous restez avec
et
nous.
Le cocooning.
Emmanuel Davidenkopf, Arnaud Parianti, on se retrouve juste après le flash dans 3 minutes. Appelez-nous, peut-on réussir sans argent dans son parcours scolaire ? De voisins et voisines, cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI. Nous parlons d'éducation comme chaque vendredi. Aujourd'hui, le rôle de l'argent dans la réussite scolaire, de l'école primaire aux études supérieures, au diplôme finalement. À la lumière de votre enquête, Arnaud Parianti, vous publiez School Business, comment l'argent dynamite le système éducatif. Emmanuel Davidenkov, vous êtes journaliste spécialisé en éducation depuis de longues années. Vous avez vu donc évoluer ce marché scolaire.
Merci pour votre pudeur.
Et vous êtes directeur de la rédaction du magazine L'Étudiant. Et bien sûr, les voisins, les voisines, appelez-nous si vous pensez ou pas d'ailleurs que l'on puisse réussir sa scolarité sans argent. 33 1 84 22 71 71. Nous sommes en ligne avec une voisine qui nous appelle de Dakar. Bonjour Binta.
Bonjour Emmanuel, bonjour les voisins.
Vous avez 25 ans et plutôt un bon parcours d'étudiante.
Oui, je ne le nie pas.
Racontez-nous.
Alors, moi je souhaiterais contribuer à l'émission. Pour moi, sans argent, on ne réussit pas que par miracle. Puisque sans argent, on ne peut pas faire ce que l'on veut. On ne peut pas choisir le cursus scolaire que l'on veut. Autrement dit, on est obligé de se limiter à ce qui se présente à nous, l'école publique. C'est elle qui décidera de notre orientation d'études. Moi, par exemple, du premier jusqu'à l'obtention de mon BTS,
oui.
J'ai toujours été dans un établissement public. Ça, j'ai été brillante, très brillante même, dans ce que je faisais, mais pas dans ce que je rêvais de faire. Au moment où je vous parle, j'ai mes diplômes en mai.
Oui.
Des diplômes avec des mentions assez bien et bien. Mais bon, jusque-là, je peine à trouver des stages. Aussi, j'ai arrêté mes études parce que je dois faire mon master et faute d'argent, voilà, faute de moyens, je dois me limiter à ma licence.
Mais alors attendez, vous avez un bac S, vous avez fait un BTS de commerce international au centre de formation professionnelle commerciale à Dakar. Vous vous êtes payé une licence professionnelle en école privée à la chambre de commerce et d'industrie de Dakar. Et vous dites, je n'ai pas d'argent pour faire un master. Pourquoi vous ne faites pas votre master à l'UCAD, à l'université Charanta Diop?
Non, à l'université, une fois que vous êtes sorti là-bas, vous ne pouvez plus réintégrer l'université Charanta Diop de Dakar.
Vous ne seriez pas accepté malgré votre parcours, en fait, parce que sont privilégiés les étudiants qui viennent déjà de l'université Charanta Diop, c'est cela?
Non, c'est pas ça. J'ai eu à fréquenter l'université Charanta Diop au début, mais je suis sortie là-bas.
Vous êtes partie, donc vous ne pouvez plus revenir?
Non, quand vous êtes partie de là-bas, vous ne pouvez pas revenir pour faire le master seulement. Ça, vous faites toute votre cursus scolaire là-bas. Et là-bas, il n'y a pas une orientation professionnelle. On vous apprend uniquement des leçons à n'en plus finir, mais pas dans les réalités de l'entreprise. Pour ça, il faut une formation professionnelle.
Donc aujourd'hui, finalement, vous vous sentez déclassé sur le marché du travail alors que vous avez toujours eu une scolarité brillante.
Exact. Et tout ça par faute de moi, parce que je n'ai pas eu effectivement à faire effectivement ce que je voulais. Et voilà.
Ce que vous vouliez faire, c'est quoi, Binta? C'était une business school privée à Dakar?
Je voulais faire des études en médecine après l'obtention de mon baccalauréat. Mais par faute de moi, j'ai dû intégrer l'université Charanta Diop, la faculté des sciences économiques et de gestion. Et là, c'est pas ce que je voulais.
Mais l'université de médecine, il aurait fallu plus d'argent?
Oui. C'est payant.
C'est-à-dire que c'est plus cher que les cursus classiques de l'université Charanta Diop.
Exact. L'université Charanta Diop, c'est pas payant. On ne paye que l'inscription.
Merci de nous avoir appelé, Binta. Vous pouvez bien sûr continuer de nous appeler pour nous parler du rôle de l'argent dans la réussite scolaire dans votre pays, que vous soyez parent, étudiant. 33 1 84 22 71 71. Arnaud Parianti.
Oui, moi je voudrais intervenir sur ce témoignage parce que effectivement on voit que se développe en particulier en Afrique une offre privée qui est de plus en plus structurée. Parce que beaucoup d'entreprises d'éducation internationale avec de très gros capitaux ont compris qu'il y avait un marché africain de plus en plus intéressant et qui ont décidé d'investir ce marché.
C'est-à-dire des fonds d'investissement européens, anglo-saxons?
Anglo-saxons en bonne partie, effectivement.
Qui achètent des écoles.
Il y a aussi des tas d'écoles qui sont présentes dans l'univers anglo-saxon, qui sont présentes en Europe, aux États-Unis, etc., et qui montent des filiales. Dans les pays de la péninsule arabique et aussi, alors on a vu par exemple le cas spectaculaire de l'île Maurice, voulant en tant que pays se développer en tant que education hub, c'est-à-dire faire une zone franche éducative qui permettrait de recruter beaucoup d'étudiants et en fait de contribuer à la à l'enrichissement de l'île Maurice et qui se donne comme objectif d'attirer des tas de gens venant d'Afrique australe en particulier.
Mmh. Emmanuel Davidenkoff, est-ce que les familles sont au courant de ce système à but lucratif quand elles font des choix d'études pour leurs enfants? Est-ce que ça doit peser dans les choix d'études? Parce que traditionnellement, historiquement, on n'a pas été habitué à cela, à choisir des entreprises qui forment les enfants.
Non, je ne suis pas certain que les familles, pour ce qui concerne l'enseignement supérieur privé en France, aient y compris conscience des différences de statut des établissements. Une faculté catholique, il y en a 6 en France, est privée. Mais ce n'est pas du tout le même statut que certains grands groupes qui sont privés au sens juridique et commercial du terme. Ce n'est pas le même coût non plus. Non, mais vous avez parfois des écoles associatives, sous statut associatif dans l'enseignement supérieur,
qui ont le même coût du privé-privé. Ses enfants dans des écoles où on redistribue les dividendes auprès des actionnaires.
Oui, mais qui sont très minoritaires, alors, pour le coup, en France. Et puis, vous avez une espèce de zone grise également, qui sont ce qu'on appelle les formations consulaires, c'est-à-dire qui dépendent des chambres de commerce et d'industrie, parce que quand même, c'est en partie financées par nos impôts. Donc, elles ont un caractère public, allais-je dire. Alors, là, en ce moment, l'État est en train d'avancer avec un nouveau statut qui est celui des établissements supérieurs d'intérêt public, un petit peu comme il y a la déclaration d'utilité publique pour certaines associations, et qui va essayer finalement d'organiser cette zone grise en disant, dans un certain nombre de cas, les établissements sont privés, mais leur objet premier n'est pas de distribuer des dividendes à leurs actionnaires. Ils rendent un service à la collectivité parce qu'ils font bien leur travail, tout simplement, et donc on va les traiter un petit peu différemment. Je pense qu'on cherche aujourd'hui dans le supérieur le même type d'accord que ce qui existe aujourd'hui dans l'enseignement scolaire, c'est-à-dire l'enseignement primaire et secondaire en France, avec au fond l'établissement, l'enseignement privé sous contrat, c'est-à-dire essentiellement catholique, qui coûte très peu cher. Vous aviez une maman au tout début de l'émission qui disait c'est 1 500 euros par an, avec ça vous ne payez pas les enseignants, les murs, etc. Pourquoi 1 500 euros par an? Parce que les salaires des enseignants sont payés par l'État.
C'est un des rares pays au monde où c'est comme ça.
Absolument. Et ça a largement contribué à maintenir dans l'enseignement scolaire, l'enseignement privé hors contrat, c'est-à-dire le totalement privé, qui est totalement marginal. C'est quelques pourcents, je pense que c'est à peu près 5% et un grand maximum. Alors, en forte croissance aujourd'hui, il y a des dizaines d'établissements qui ouvrent chaque année, mais des dizaines sur des milliers. Donc, certes, la croissance est spectaculaire, mais en valeur absolue, aujourd'hui, ça demeure tout à fait marginal.
Oui, c'est vrai. Mais le critère, ceci dit, le plus important maintenant, c'est pas véritablement le statut. C'est-à-dire que, effectivement, entre privé, public, il y a des tas de statuts assez compliqués.
Et les parents,
par contre, ce qui est
alors,
important,
on n'y comprend rien.
Non, on n'y comprend rien du tout. Mais ce que les parents comprennent rapidement, c'est ce que ça va leur coûter. Et en fait, il peut y avoir des formations publiques qui sont extrêmement coûteuses. Il y a des formations qui sont alors, on prenait l'exemple de Sciences Po. Sciences Po, effectivement, est géré très largement par la FNSP, Fondation nationale des sciences politiques, donc une fondation, donc de droit privé, et en même temps reçoit des subventions de l'État qui représentent la majorité de son budget, ce qui ne l'empêche pas de demander des droits d'inscription qui vont jusqu'à 13 700 euros par an.
En master.
En master, oui.
Pour les familles les plus fortunées, attention.
Oui, c'est vrai, mais pour une famille, famille de niveau moyen, on atteint très rapidement les 10 000 euros. Très rapidement.
Je vous propose de partir à présent pour la Corée du Sud. C'est un pays où la compétition scolaire est particulièrement exacerbée et où, plus que partout ailleurs, l'argent est vraiment le nerf de la guerre éducative. Les cours privés, vous le savez, sont le premier poste de dépense des familles. Et ils coûtent si cher que nombre de foyers modestes renoncent à avoir des enfants de peur de ne pas pouvoir leur offrir des études convenables. Bonjour Frédéric Ojardias.
Bonjour Emmanuel, bonjour les voisins.
Vous êtes notre correspondant à Séoul. Est-ce qu'on sait combien les familles sud-coréennes dépensent en cours privés?
Oui, en fait, selon les chiffres de l'OCDE, l'année dernière, les familles coréennes ont dépensé au total 13,4 milliards d'euros dans les instituts privés de cours du soir. Cela représente plus de 10% des dépenses d'un ménage et près de 1% du PIB. La Corée est de très très loin le pays de l'OCDE qui dépense le plus dans l'éducation privée. L'éducation ici publique ici est pourtant gratuite et obligatoire, mais en fait pour s'assurer que leurs enfants réussiront, vous savez, ce très compétitif examen d'entrée à l'université, les Coréens les envoient le soir après l'école dans les hagwon, ces cours privés qui peuvent coûter très cher, et cela, ça commence dès l'école primaire. Il existe quelques 30 000 de ces hagwon et 3 000 nouveaux établissements ont ouvert rien que l'année dernière, et puis à cela s'ajoutent les nombreux cours particuliers qui ne sont pas pris en compte dans les statistiques. Et puis il y a un autre facteur de sélection par l'argent, c'est que par exemple à Séoul, c'est surtout la carte scolaire qui décide des prix de l'immobilier.
Oui, on connaît bien ça à Paris, dans les grandes villes françaises, effectivement.
Oui, voilà, c'est ça. Alors, ici, vraiment, les arrondissements où se trouvent les meilleurs établissements voient leur prix s'envoler. Et certains parents font aussi le choix de l'expatriation. Ils envoient leurs enfants dans des écoles primaires ou des lycées à l'étranger, ce qui coûte encore plus cher. Et cette compétition éducative vraiment féroce, elle s'explique par le fait que le diplôme ici, c'est synonyme de statut social. Et sans lui, c'est presque impossible de décrocher un bon emploi ou de faire un bon mariage.
Ouais. Alors, quelles sont les conséquences de cette compétition et de ces dépenses éducatives très élevées, Frédéric ?
Eh bien, au début, elles étaient très positives parce que cette passion coréenne pour l'éducation, eh bien, c'est l'un des piliers du développement économique absolument spectaculaire du pays. Mais aujourd'hui, eh bien, la Corée, elle découvre le revers de la médaille. Les trois quarts de ses lycéens entrent à l'université et le pays déborde littéralement de jeunes diplômés surqualifiés qui ne trouvent pas d'emploi. La dette des ménages, elle explose, notamment sous la pression de ses coûts éducatifs. Et le taux de natalité s'effondre parce que les parents coréens ont peur de ne pas pouvoir, vous l'avez dit tout à l'heure, payer les frais astronomiques d'une bonne éducation. Ils préfèrent se limiter à un ou deux enfants, voire à pas du tout. Et si vous posez la question à tout jeune couple coréen, vous répond en haussant les yeux et en mentionnant les dépenses éducatives. Et la conséquence, c'est que le taux de natalité, ici, il est tombé à 1,21 enfants par femme. C'est tout petit.
Moins que l'Allemagne, oui.
Oui, voilà. Et à ce rythme, la population va commencer à diminuer d'ici 15 ans.
Alors, comment réagit le gouvernement coréen face à ce problème ?
Emmanuel, il tente diverses solutions sans grand succès. Tout d'abord, il essaie de redonner de la légitimité à l'école publique pour que les parents ne ressentent plus cette nécessité de payer pour des cours du soir. Mais ça ne marche pas du tout. Les meilleurs profs sont toujours attirés par les hauts salaires du privé et ces ragwon restent considérés comme le meilleur moyen d'entrer dans une bonne université. Le gouvernement a aussi essayé de s'attaquer à ces instituts privés en leur interdisant d'enseigner après 22 heures le soir et en leur interdisant de prendre de l'avance sur les programmes. Mais ça ne marche pas non plus. Les écoliers donnent toujours la priorité à l'enseignement du ragwon et pendant les classes à l'école publique, eh bien, ils dorment la tête sur leur pupitre. Et puis enfin, les autorités ont essayé d'encourager les grandes entreprises, telles que, vous savez, Samsung ou LG, à recruter davantage d'employés dès la sortie du lycée et non pas de la sortie d'université. Mais ces programmes de recrutement parallèle sont très modestes et ces employés sans diplôme ont en fait très peu de chances de faire carrière. Le problème reste donc entier et les familles coréennes continuent de se sacrifier aux quatre veines pour l'éducation de leurs enfants.
Merci Frédéric Ojardias, correspondant pour RFI à Séoul. Arnaud Parianti, Emmanuel Davidenkov, je vous vois l'air assez affolé par ces descriptions que vous connaissez en même temps.
Oui, on connaissait le Japon.
Les Juku au Japon, si je me souviens.
On connaît la bulle éducative aux États-Unis qui représente de 1 200 à 1 500 milliards de dollars.
L'endettement des étudiants américains.
Oui, endettement assez inquiétant parce que beaucoup d'étudiants, on le sait très bien, ne pourront jamais rembourser. Et là, on voit une autre facette du problème. Donc effectivement, ça serait bien que...
Alors là, les petits Coréens, ils travaillent beaucoup hein, avec tous ces cours supplémentaires. Oui, c'est pas le parcours des élèves moyens qui n'ont pas trop envie de se fouler et qui réussissent grâce à l'argent que vous décriviez
dans les tests
en France,
PISA, les Coréens sont très bien situés.
Chose. Emmanuel Davidenkov.
Absolument. Ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est que quand la Corée est passée devant la Finlande dans les tests PISA, et plus personne en France n'a dit qu'il fallait imiter les meilleurs pays de l'OCDE. C'est très drôle. Mais bon, non, je crois qu'il y a deux choses. Premièrement, il y a le poids du diplôme initial. C'est très bien dit concernant la Corée du Sud avec la question du statut. Alors ça enclenche y compris la question du mariage, etc. en Corée du Sud. C'est peut-être moins le cas en France, encore que, il faudrait vérifier. Mais en tout cas, en France, il y a un poids du diplôme initial qui est considérable. C'est-à-dire, vous n'avez pas une deuxième chance. Donc tout va se jouer, effectivement, dans la capacité, alors votre capacité si vous êtes le jeune et dans la capacité de votre enfant si vous êtes les parents, à être meilleur que les autres. Donc une fois de plus, il ne s'agit pas d'être bon, il ne s'agit pas d'apprendre, il s'agit d'être meilleur que les autres. C'est pas la même chose. D'être meilleur que les autres, grosso modo, à partir de l'âge de 14-15 ans, et il ne faudra pas faiblir jusqu'à l'âge de 20-22 ans, à peu près. Et après, c'est plié. Et les hiérarchies sont faites. Je vais vous raconter une anecdote. À l'étudiant, on fait depuis plus de 25 ans des palmarès d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs, etc. Moi, le principe du palmarès qui consiste à dire le numéro 1, c'est un tel, et si vous n'entrez que dans le numéro 10, vous avez raté votre vie, je peux pas. Bon, donc on a mis en place, ça a été un boulot absolument terrible, ça nous a pris 2 ans avec les informaticiens, etc. Non plus des palmarès, mais finalement des comparateurs, des classements dans lesquels vous entrez vos critères, et qui sont extrêmement variés. Et on va vous sortir ce qu'on appellerait une shortlist en bon français. On va vous dire, par rapport à vos critères, à vous, voici quels sont les meilleurs établissements. J'étais persuadé de rendre un service signalé à la nation, d'atténuer le poids de la compétition, d'arrêter de déprimer les gens.
Je m'en suis beaucoup servi dans mon livre.
Et donc vous avez en fait déclenché une révolte de la part des étudiants qui consultent,
c'est ça ? Si vous saviez le nombre de plaintes que j'ai reçues.
C'est-à-dire ?
Des établissements, des parents. Alors y compris, il y en a un qui m'a fait beaucoup rire un jour, qui m'a dit, mais vous avez le devoir de faire des classements. J'ai écouté, on est une société société privée, on n'est pas l'État, donc
on fait ce qu'on veut.
Oui, voilà. Mais voilà, donc on est très attaché en France à ce classement totalement hystérique à cause du poids du diplôme initial dans la carrière.
Les jeunes veulent un classement immuable, c'est ça, un classement.
Alors, il se trouve ensuite, quand vous regardez, quand vous soulevez le capot des classements nationaux ou internationaux, vous vous rendez compte que la façon dont ils sont faits, ils sont totalement tautologiques et de fait complètement immuables, notamment parce que quand vous faites rentrer vous prenez en considération la réputation des établissements, c'est-à-dire les choix des jeunes, c'est parfaitement redondant parce que vous dites une telle école est bonne parce qu'elle est très choisie et les jeunes la choisissent parce qu'elle est bonne. Donc finalement, vous refaites le même classement tous les ans. Le deuxième point, c'est qu'il y a une banalisation du diplôme. En France, c'est allé extrêmement vite et peut-être un jour, ça viendra dans d'autres pays d'ailleurs et notamment en Afrique. Mais au milieu des années 80 en France, vous avez 30% d'une génération qui a le baccalauréat. 30%, ça veut dire que la norme n'est pas d'être bachelier. Aujourd'hui, c'est 80%. Donc, la norme est d'être bachelier. L'absence de diplôme aujourd'hui est beaucoup plus coûteuse qu'elle pouvait être il y a ne serait-ce que 30 ans.
Et on nous raconte aussi, dans les études économiques depuis des années que le meilleur investissement qu'un adulte puisse faire, c'est le diplôme. Voilà. Mieux qu'un investissement boursier,
d'ailleurs. Alors maintenant, on dit plus c'est le meilleur. On a vu les chiffres, y compris pour les bacs plus 5 en France aujourd'hui, c'est-à-dire les masters. Dire que c'est le meilleur investissement, en tout cas, c'est le moins pire. Voilà. Mais c'est même plus une garantie aujourd'hui. C'est une condition nécessaire, mais non suffisante.
Oui, mais alors justement, le fait qu'aujourd'hui la différence se fasse plus sur la longueur des études, ouais, mais sur la qualité des diplômes, finalement, ça accroît le rôle du privé et le rôle de l'argent, parce que finalement, si tout le monde a des bacs plus 5, il est clair néanmoins qu'entre un master de l'université dans des disciplines peu prisées et un diplôme de l'école polytechnique, l'écart est tellement gigantesque que finalement, c'est pas la longueur des diplômes, la longueur des études, l'élément pertinent.
Pourquoi vos élèves, vous parlez évidemment, vous avez beaucoup enquêté sur les trajectoires de vos élèves dans ce lycée parisien UP, décident de partir à l'étranger dans un pays où on a une offre scolaire absolument gigantesque?
Alors, je crois qu'il y a d'abord évidemment le fait que l'anglais et les langues en général sont devenus des critères de sélection très importants et des critères de recrutement au niveau de l'emploi très importants. Il y a ensuite le fait que nos filières d'excellence sont quand même des filières où on travaille énormément. Il y a le côté no life, aller en prépa, disent les élèves, c'est pendant 2 ans, arrêtez tout. On n'a plus d'amis, on n'a plus de sorties, on fait plus de sport. On est no life. Et ils pensent, à tort ou à raison, qu'ils vont pouvoir obtenir un niveau de diplôme à peu près équivalent en passant par des filières beaucoup plus épanouissantes dans le système anglo-saxon. Ça joue un rôle, je crois, qui est très très important. Et donc, j'ai beaucoup d'anciens élèves qui vont à l'étranger et qui ensuite vont passer des concours parallèles, concours passerelles et autres, pour rentrer dans les meilleures écoles de commerce ou d'ingénieurs.
Court-circuité le système de la méritocratie française.
En ayant évité les 2 années de prépa notamment.
Puisque vous parlez de la méritocratie, si la méritocratie publique à la française égalisait un tout petit peu plus les chances et laissait moins de place au capital culturel et au capital économique, non pas acquis, mais de naissance, le problème serait nettement moindre. Je veux dire, le problème, c'est que vous regardiez vers le public ou vers le privé, vous avez une redondance du poids de l'argent et du rôle que l'argent va jouer dans le parcours économique, à commencer par, et c'est amusant qu'aucun des parents ne l'ait cité, mais ça a été cité pour la Corée au tout début de l'émission, à commencer par le prix du loyer ou le prix du logement que l'on paye en France pour être dans la zone de chalandise d'un bon établissement. Ce n'est pas un investissement direct dans l'éducation, mais c'est un investissement indirect considérable.
Depuis le début de l'émission, on a l'impression qu'on ne parle que des riches, là, en France. Parce que vous citez des sommes tellement astronomiques, 13 000 euros pour un master, qui peut se payer ça? Certainement pas un menuisier pour son fils. Est-ce que les classes moyennes modestes, aujourd'hui, sont impactées par l'importance de l'argent dans la réussite scolaire, Arnaud Parianti?
Elles le sont considérablement. Il y a une étude très intéressante qui avait montré il y a quelques années, par exemple, que c'était très souvent des familles d'immigrés, parce que elles se sentaient beaucoup moins capables que les autres d'aider leurs enfants, qui se payaient le plus de petits cours au niveau de la sixième. Alors, je ne dis pas que ce soit la même chose au niveau de la terminale, mais au niveau de la sixième, ils faisaient un effort financier considérable pour essayer de mettre leurs enfants à niveau, parce qu'ils savaient qu'eux, ils auraient du mal à le faire. La deuxième chose, évidemment, c'est qu'il y a toutes les classes moyennes fort diplômées qui, jusqu'ici, savaient profiter de leur capital culturel pour bien naviguer dans le système éducatif et réussir d'excellentes scolarités. On disait toujours que les meilleures scolarités, c'était celles des enfants d'enseignants. On le disait, et puis c'était statistiquement prouvé. Avec la nouvelle donne, les choses changent. Et là, on a affaire, ces classes moyennes diplômées sont les perdants du changement, parce que effectivement, ils n'ont pas les moyens de se payer les appartements qui permettront de donner accès au grand lycée du 5e arrondissement. Ils n'ont pas nécessairement les moyens de payer du coaching, les écoles privées,
d'accord,
etc.
Ou pas, Emmanuel Davydenkov?
Totalement d'accord. Parce que, ça me permet d'ajouter
quand
un
je parlais
point.
De l'enfant du fils du menuisier, si, mais alors, si, il a les moyens, lui aussi, il va s'enseigner.
Si je puis me permettre, Emmanuel, hein, c'est ça l'erreur. C'est que, alors menuisier ou pas menuisier, mais en tout cas, un enfant issu d'un milieu où l'accès à la culture n'a pas été aussi évident que ça et qui a besoin d'être encadré, aujourd'hui, les parents sont tout à fait prêts à l'inscrire dans un établissement dès lors qu'on lui promet de l'encadrement et qu'on va lui décoder le fonctionnement du système et qu'on va lui faire
de
la musculation culturelle en termes de culture G. Mais les gens empruntent. Parce qu'il faut quand même arrêter. Vous dites, un bachelor, par exemple, un nouveau diplôme qui se développe beaucoup en France, en 3 ans après le baccalauréat, ça coûte entre 7 et 8 000 euros par an. Ça fait au total 3 fois 7, 21. Il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui disent, bon, ben voilà, je ne vais pas changer de voiture. Enfin, c'est le prix d'une voiture neuve, de familiale, j'entends. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des tas de gens aujourd'hui qui arbitrent pour les
Donc
études de leurs enfants plutôt
si,
que sur la voiture.
Pas encore mais si alors... cher que ça. C'est ce que vous...
Et puis, non, mais...
Non, là, je pense qu'on est en France. Je pense qu'on ça va être difficile d'augmenter les tarifs, mais en l'état actuel des choses. Mais en tout cas, moi, ce que je constate en visitant ces écoles privées, c'est que vous avez un public qui est un public en termes de revenus que vous auriez normalement trouvé il y a 20 ans sur les bancs de l'université, qui elle est gratuite. Simplement, ils ont l'impression, ils ont peur d'être perdus à l'université, et donc ils ne vont pas à l'université.
Arnaud Parianti, je voudrais qu'on cite un cas très intéressant que vous citez dans votre enquête, le cas des études pour être aide-soignant. Aide-soignant dans une clinique, dans un hôpital, c'est pas un métier. On gagne pas beaucoup d'argent, il y a pas de chômage. Et pourtant, les écoles privées foisonnent. Comment expliquer que les familles payent alors qu'il n'y aura pas de chômage pour leurs enfants s'ils choisissent d'être aides-soignants, qu'ils ne vont pas gagner beaucoup d'argent, donc pour rembourser ces études-là, ça ne va pas être évident. Et elles payent des écoles à combien? 2000 euros l'année, parfois?
Ça peut être le double même. Oui, c'est la suite de ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a deux domaines où l'offre privée se développe à toute vitesse. Ce que les rêves des enfants, et puis tous les domaines où on est à peu près sûr d'avoir un accès à l'emploi. Et alors là, aide-soignante, c'est particulièrement net parce qu'effectivement, ça concerne des concours qui sont en dessous du niveau du bac. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de familles qui sont désespérées en se disant on ne cesse de répéter, les médias sont pleins de l'affirmation selon laquelle, sans le bac, on est fichu, on ne peut rien faire du tout. Donc, si mon enfant me dit, il y a ce concours, et en plus, c'est bien sûr, c'est un métier dur, c'est un métier mal payé, mais c'est un métier du soin. C'est un métier qui a, je dirais pas du prestige, mais dont on sent l'utilité sociale. Et que votre enfant vous dit, malgré tout, c'est un concours, comme j'ai pas un niveau scolaire très brillant, ça serait bien si je pouvais bénéficier d'une aide, on va aller vers une formation sur Internet à 1500 euros, ou bien des cours en école qui peuvent aller jusqu'à 4000 euros, et voire un peu plus.
On n'a pas encore quand même parlé du principal acteur en France, l'université publique, qui coûte presque rien. Est-ce que vraiment, aujourd'hui, les jeunes disent « tout, mais pas l'université ».
Alors, les miens, c'est-à-dire les lycéens des quartiers chics, oui, parce qu'ils ont plein d'autres options. Et que l'université, ils s'en rendent bien compte, nécessite de l'autonomie, nécessite d'être capable de se prendre en main et de travailler par soi-même. Et puis, il faut bien le dire, l'argent dans l'université n'est quand même pas mis surtout sur le premier cycle. Et donc, le premier cycle, c'est quand même un parcours sacrément semé d'embûches, avec une organisation des enseignements qui privilégie les cours en amphi, qui sont quand même difficiles à suivre, quand on n'est pas bon pour prendre des notes, quand on manque un peu d'autonomie, avec des examens qui sont quand même faits souvent à la va-vite, avec des intervenants qui sont extrêmement mal payés, il faut bien le dire. Et il est certain que quand on a la possibilité...
Enfin, les intervenants qui absorbent quand même 80% du budget des universités, donc...
Oui, bien sûr, mais... Bon, la Cour des comptes a un peu renoncé quand elle a fait son enquête sur les études de droit, mais ce qu'elle avait l'air de suggérer, c'était quand même que l'argent allait surtout sur les troisième et les deuxième cycles, et qu'un étudiant de premier cycle en droit, il est loin de coûter ce que coûte un étudiant en moyenne. Un étudiant coûte en moyenne à peu près 10 à 11 000 euros, mais un étudiant de première année en droit, il coûte plutôt aux alentours de probablement 2500 euros, d'après
Emmanuel
les calculs.
Emmanuel Davydenkov, on arrive au terme de cette émission.
Ce qu'on constate à l'étudiant, notamment sur les salons, puisqu'on en organise une centaine dans toute la France, il n'y a aucun problème avec l'université dès lors que l'université sélectionne. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment, parce qu'il y a cette hypothèse en France qui est très forte, qui est qu'à partir du moment où on est sélectionné, on va, sur le poids du diplôme initial, on va accéder à un diplôme que les autres n'ont pas.
Et fait payer un petit peu plus cher.
Pas forcément.
C'est vrai que les doubles diplômes, par exemple, sont très, très valorisés par les étudiants.
Est-ce que le tabou du prix des inscriptions à l'université risque de sauter un jour pour augmenter modérément le prix des universités, alors qu'il est extrêmement bas, moins de 200 euros pour une année en licence?
Aujourd'hui, ça n'en prend pas du tout le chemin. Thierry Mandon, le nouveau secrétaire d'État à l'enseignement supérieur l'a redit tout récemment dans l'Express, et la droite elle-même avait refusé, enfin avait renoncé, puisque Valérie Pécresse
a réformé.
Ça pourrait freiner la marchandisation.
La sélection,
ah non, c'est l'autre tabou qui va sauter, celui de la sélection à l'entrée.
À titre personnel, j'en doute fortement.
Je crois que parce que ça craque.
Remettre de l'argent et de la qualité dans les universités,
ça va se faire comme ça se fait souvent en France en matière d'éducation, c'est-à-dire dans une grande hypocrisie. On va voir se multiplier des filières sélectives au sein des universités.
Absolument.
Simplement, on ne remettra pas en cause le grand principe, ce qui signifie que beaucoup de premiers cycles continueront à être confrontés à un afflux d'étudiants qui n'ont pas forcément les prérequis, tout simplement pour réussir à l'université.
Donc, marchandisation plus que jamais et université à deux vitesses, si j'ai bien compris.
Absolument.
Eh bien, tout ça n'est pas très optimiste. Arnaud Parianti, il faut lire votre enquête très intéressante, School Business.
J'ai adoré aussi son livre.
Ou comment l'argent dynamite le système éducatif. C'est bourré de chiffres, bourré d'infos, bourré de témoignages. Emmanuel Davidenkov, directeur de la rédaction à l'étudiant. Dernier ouvrage sur l'éducation, le tsunami numérique. Ça, c'est pas prêt de se démoder non plus. Merci à vous, les voisins, les voisines, pour vos témoignages. Et merci à toute l'équipe. Lundi, 7 milliards de voisins, nous serons de retour en direct. Fini l'été, fini les rediffusions. Nous serons tous sur le pied de guerre dans le studio de RFI. Et on vous attend, bien sûr, de pied ferme. À lundi, les voisins, en direct.